Unia Europejskie.
Euroopan kohtaamispaikka.
Kuzimi on tuota Eurooppa.
Stavrodromi tis Evropis.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles.
Bonjour, bonsoir et bienvenue au Carrefour de l'Europe, bienvenue en Finlande, bienvenue à Helsinki, tout au nord de l'Europe. Longtemps, la Finlande a été le pays modèle de l'Union Européenne, alliant une économie prospère à un État-providence performant. Sans oublier les premières places du podium mondial en matière d'éducation, de liberté de la presse ou d'absence de corruption. Tout ne va pas mal au pays des mille lacs, loin de là, mais depuis quelque temps, la Finlande peine à retrouver le chemin de la croissance, le chômage progresse, l'immigration s'invite dans le débat politique et les Finlandais sont quelque peu déboussolés. Témoin, la composition du nouveau gouvernement qui regroupe des Européens convaincus et des eurosceptiques notoires. Il en faudrait davantage toutefois pour ébranler les Finlandais qui peuvent compter sur leur principal trait de caractère, le sisu, que l'on peut traduire en français plus ou moins par persévérance. En attendant des jours meilleurs, la Finlande cultive son côté tendance en accueillant chaque année plus nombreux des touristes avides d'arpenter un pays à l'immense nature préservée, de s'initier à un art de vivre entre design et sauna et de goûter à une gastronomie en train de gagner ses lettres de noblesse. Carrefour de l'Europe à Helsinki, une heure pour partir à la découverte de la Finlande et des Finlandais. Je vous présente nos invités qui ont bien voulu nous rejoindre ici à l'Institut français d'Helsinki. Sixten Korkman, bonjour. Päivä.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à l'Université d'Aalto, c'est la grande université d'Helsinki.
Oui, c'est ça.
Et vous êtes professeur d'économie de longue date?
Non, quelques années. Auparavant, je travaillais comme fonctionnaire dans le ministère des Finances, mais aussi dans l'Union Européenne.
Donc, les rapports entre l'Europe et la Finlande n'ont pas de secret pour vous. Elli Suominen, bonjour. Päivä.
Bonjour, Daniel.
Je voulais dire Päivä ou Hey? Qu'est-ce qui...
Hey, c'est très bien.
C'est pas trop familier.
Non, pas du tout.
Vous êtes une ancienne journaliste du grand quotidien d'Helsinki, Helsingin Sanomat, et vous êtes désormais conseillère en communication. Vous conseillez qui?
Je donne des conseils aux grosses boîtes, aux organisations et des petites entreprises également.
Timo Torikka, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes acteur et les Français ont pu vous voir notamment dans deux épisodes de l'inspecteur Maigret.
Voilà, ça fait des années déjà.
Et vous jouiez un inspecteur, un gentil ou un méchant?
Très très gentil en fait, qui a aidé Maigret, dans...
Un gentil inspecteur.
Oui, voilà. Arrivara, c'était son nom.
Catherine Métivier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de français. Oserais-je dire que vous êtes la plus française des Finlandaises ou la Finlandaise la plus française, un peu des deux?
Oui, disons que j'ai passé plus de temps de ma vie en Finlande qu'en France.
Donc vous êtes plus que biculturelle.
Oh, peut-être, je sais pas. Difficile à dire.
Laura Sauvageau, bonjour.
Bonjour, Daniel.
Hey, vous êtes chargée de communication. Et à vos côtés, Walter Deval. Hey, également.
Hey, bonjour.
Vous êtes artiste plasticien. On entendra à la fin de l'émission une chanteuse finlandaise de plus en plus connue qui s'appelle Heino Vena. Elle nous chantera une chanson. D'habitude, elle chante en anglais. Là, elle nous chantera une chanson en finlandais. Alors, Sixten Korkman, tout allait bien dans le meilleur des mondes en Finlande. Croissance soutenue, niveau de vie élevé. État-providence performant. Et puis, soudain, la crise, la récession pendant 2 ou 3 ans, puis aujourd'hui la stagnation, un chômage important, 10% de la population, c'est important, c'est un peu comme en France, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la Finlande a autant mal à sortir de la crise?
Oui, nous sommes certainement tombés du piédestal. Et il y a plusieurs raisons, mais disons d'abord, Nokia était une compagnie d'une importance énorme en Finlande. Aujourd'hui, Nokia existe encore, mais il est minuscule en comparaison avec ce qu'il était un jour. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, que l'industrie qui produit des papiers diminue et continue à diminuer parce qu'en Europe, la consommation de papiers s'est diminuée. Comme aux États-Unis, ça, la croissance est seulement en Asie. Troisième facteur, Ukraine et la Russie. Ça frappe durement notre exportation. Bien sûr que c'est un problème qui est beaucoup plus sévère, sérieux politiquement, mais aussi les conséquences économiques néfastes pour nous.
Parce que historiquement, la Finlande a une part importante de son commerce qui va vers la Russie.
Oui, c'est pas la plus grande, mais quand même d'une importance considérable. Et c'est-à-dire qu'on a été frappé par plusieurs, comme les économistes disent, chocs asymétrique, c'est-à-dire des difficultés qui ne concernent pas vous ou les Allemands ou les Suédois, mais qui concernent nous. Et ça, c'est une grande difficulté parce qu'il faudra améliorer la compétitivité, mais avec l'euro, ça va dire qu'il faut avoir une discipline dans le niveau des salaires qui est colossal.
Alors, Elise Ominen, comment ressentent cette crise les Finlandais, comment la ressentent-ils?
Je trouve qu'il y a une crise identitaire en Finlande. On a été très fiers de notre état de providence, on a été très fiers de notre économie, notre sisu, l'esprit de travail est très fort, et on a aussi été même un peu arrogant vis-à-vis des pays comme Grèce et Espagne qui ont tombé en difficulté à cause de corruption. Mais maintenant, on tombe nous-mêmes et on ne sait pas trop bien ce qui nous attend à l'avenir, et ça crée une crise identitaire.
Quand on est jeune, Walter de Valle, on la ressent comment, cette crise?
Pour moi, ça fait que je suis bilingue, alors je suis moitié finnois. Alors peut-être que je le sens un peu différent que la majorité, mais...
Laura Sauvage, on la ressent comment quand on est jeune? Parce que cette crise, ce chômage, 10% de la population, il touche évidemment prioritairement les jeunes.
C'est vrai, et donc les jeunes, ils ont beaucoup de mal aussi dans leurs études, et je pense qu'ils veulent... pas finir leurs études aussitôt qu'ils le faisaient avant, parce que le marché du travail fait très peur. Donc ils préfèrent prolonger leurs études et gagner du temps en faisant ça.
Rester chez les parents plus longtemps?
Non, par contre, les Finlandais, ils déménagent très tôt, surtout dans d'autres villes universitaires, et justement, ils partent du foyer familial assez tôt.
Et Elise Ominen?
Oui, et en fait, cette année, c'est une des premières années quand on parle beaucoup d'immigration, et il y a beaucoup de critiques contre l'immigration, mais en fait, maintenant, on commence peut-être à voir même le problème immigration, parce que la jeune population commence à chercher du boulot à l'étranger. Ce n'est pas à l'échelle de l'Estonie ou Lituanie, mais on voit ça déjà un peu des statistiques.
Alors néanmoins, si on compare la situation en Finlande par rapport à d'autres pays européens, on n'a pas en mémoire des dizaines de milliers de Finlandais qui ont manifesté dans les rues d'Helsinki contre la crise, contre l'Europe, voilà. On ne manifeste pas, c'est pas un état d'esprit finlandais de manifester, Elise Ominen?
On a manifesté beaucoup au début des années 90 quand on a eu la dernière grande récession, mais on n'est pas très protestataire, on vote, on discute calmement. Je crois que cette crise identitaire exprime plus un pessimisme à la maison que d'aller protester à la rue. Et comme j'ai vécu en France, je trouve que ça peut-être ferait du bien à protester un peu plus dans les rues.
Timo Torikka, vous regrettez que les Finlandais ne protestent pas, ne descendent pas davantage dans la rue?
Ouais, c'est pas vraiment manière finlandaise de s'exprimer, mais la révolte, je crois que ça existe quand même, mais je crois que c'est un peu pareil partout dans l'Europe. Révolte contre quoi? Révolte contre qui? C'est compliqué.
Alors tout à l'heure dans l'introduction, j'ai employé un mot qui est un mot très finlandais, sisu, ça s'écrit S-I-S-U, je crois, et c'est une part importante du caractère finlandais. Qu'est-ce qui se cache derrière ce sisu qui explique peut-être justement que les Finlandais sont pas descendus dans les rues, que les Finlandais sont restés calmes par rapport par exemple aux Espagnols, aux Grecs ou aux Italiens? Qui veut rebondir sur le thème du sisu?
Je crois que les Finlandais ont vraiment créé ce mot aussi pour leur identité, mais je ne sais pas, c'est très difficile de voir si ça existe réellement ou pas.
Catherine Métivier, vous qui êtes à la fois finlandaise et française.
Oui, non, je voudrais rebondir sur ce que Heli a dit tout à l'heure quand elle a parlé de cette crise identitaire. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a une crise identitaire, mais qui est associée aussi à une société qui est en pleine mutation. Moi, je suis arrivée dans les années 80, et à l'époque, tout le monde me disait, oui, tous les Finlandais me disaient autour de moi, nous sommes une société très homogène, cette homogénéité. Et ça me surprenait beaucoup parce que, pour moi, qui dit, l'homogénéité n'est pas naturelle, c'est contre nature. Et alors, il s'agissait d'une homogénéité, et puis j'ai commencé à observer, il s'agissait d'une homogénéité qui n'était pas d'ordre lié aux classes sociales. C'est-à-dire qu'il y avait en Finlande, il y a toujours eu des ouvriers, une élite, tout ça. Mais c'était en termes de valeurs. C'est-à-dire que quand je promenais à l'université ou dans des classes ouvrières, tout le monde partageait ces mêmes valeurs. Et le sisu en faisait partie. Quand on leur demandait comment sont les Finlandais, c'est quoi être un bon Finlandais, entre guillemets.
Et pas un répondait, vrai Finlandais, on va y revenir.
Non, un bon Finlandais, c'est quelqu'un qui travaille, un travailleur, c'est quelqu'un qui est humble, qui est honnête, qui a du sisu, voilà, qui est d'ailleurs une valeur collective, pas individuelle, toutes ces choses-là. Et qu'est-ce qui se passe depuis une quinzaine d'années? La société est en train d'évoluer. C'est-à-dire que je pense que la Finlande est en train de... Elle est en train de mûrir et est en train de se découvrir une diversité.
Sous le phénomène de l'immigration. Il y a,
oui,
quand
tout
vous êtes arrivé
fait.
En Finlande il y a quelques années.
Ah, j'étais une espèce rare, je dirais. vraiment. Oui, tout à fait. Et il y a cette découverte qui se fait et qui pose beaucoup de problèmes finalement, parce que les gens se disent, par rapport aux dernières élections, les gens se mettent à exprimer des valeurs différentes. Chez les jeunes, ils vont vous dire « Moi, le travail, oui, mais bon, il y a autre chose qui m'intéresse. » Les anciennes générations, ils vont dire « Quoi ?» Hein, là, on casse carrément un mythe. Enfin, on peut appeler ça ce qu'on veut. Et ça pose beaucoup de problèmes. Alors, en même temps, les gens aiment ça. Mais d'un autre côté, je dirais que ça génère beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup d'inquiétudes, parce que justement, les gens ne manifestent pas. Mais ils commencent à manifester. On l'a vu à l'automne dernier. Ils commencent à faire des pétitions. Les gens commencent à s'exprimer. Et ça, c'est nouveau.
Et ils se sont exprimés récemment lors des dernières élections du mois d'avril, en plaçant le parti des vrais Finlandais, qu'on peut comparer un peu au Front National, mais peut-être que c'est un peu excessif. En tout cas, un parti populiste, plutôt xénophobe, et en tout cas ultra-conservateur. Il est arrivé en deuxième position, en tout cas au niveau des sièges. Et ça donne un gouvernement aujourd'hui assez étrange, avec d'un côté un gouvernement avec des eurosceptiques notoires, et puis de l'autre des europhiles confirmés. Alors l'eurosceptique notoire, c'est Timo Soini, c'est le leader des vrais Finlandais, et l'europhile confirmé, c'est Alexander Stubb, l'ancien premier ministre, qui est polyglotte et évidemment très très européen, lui aussi a travaillé à Bruxelles. Comment les Finlandais vont gérer ce qui apparaît, en tout cas pour un Français, comme une contradiction majeure, Elise Ominen?
Je trouve que ce qui est en commun pour ce gouvernement, c'est une politique très stricte en économie. Donc c'est là où ils trouvent leur terrain en commun. Et pour vrai dire, je trouve que la politique vis-à-vis de l'Union européenne ne va pas changer beaucoup, parce que ça a été assez eurosceptique déjà. Et il y a bien sûr des choses en commun entre Front National et Vrai Finlandais, mais pas tellement. Timo Soini n'est pas du tout aussi eurosceptique que Front National. Timo Soini n'est pas si xénophobe. Il y a une certaine fraction dans son parti qu'on peut dire xénophobe, mais Timo Soini lui-même ne l'est pas tellement. Et en fait, j'attends qu'il, quand on va voir les premiers conflits, ça pourrait être entré au sein de vrais Finlandais, entre Timo Soini et son parti, qui est habitué à être en opposition et qui a de grosses attentes vis-à-vis de politique en gouvernement, mais parce que c'est un gouvernement de coalition, ça ne pourra pas être autant la politique de vrais Finlandais que le parti voudrait.
Sixten Korkman, comment le gouvernement va gérer ce qui est quand même une contradiction majeure?
Je trouve que c'est gérable. Comme je suis d'accord avec ce que vous avez dit, que quand même la position de la Finlande va rester plutôt en faveur des coopérations dans l'Union européenne. Timo Soini a utilisé le fait qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent, mais c'est quand même seulement quelque chose de rhétorique, mais pas sérieusement. Il n'est pas contre l'Union européenne, il ne veut pas qu'on sorte, il ne veut pas qu'on sorte de monnaie commune, etc. Et c'est aussi d'accord, je suis d'accord que ce qui est commun, en commun, c'est quand même un gouvernement bourgeois qui va poursuivre des politiques de rigueur pour diminuer ou éliminer les déficits budgétaires. Ça, on peut discuter, est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée, mais c'est très typique en Finlande qu'on n'aime pas avoir des déficits budgétaires longtemps.
un peu comme les Allemands.
Un peu comme les Allemands, pas aussi dur que ça, mais quand même dans la même direction.
Alors, pour tout un tas de raisons historiques et politiques, la Finlande a été un pays, le fameux bon élève de l'Union européenne, et les Finlandais étaient très europhiles. Est-ce qu'ils vont le rester ou est-ce que la crise va raboter cette europhilie des Finlandais?
Non, c'est une crise dangereuse, parce que toujours on commence à dire que c'est la faute des autres, mais je ne peux pas dire qu'on accuse l'Union européenne, parce que nous savons bien que c'est la faute de nous-mêmes. Il n'y a pas des gens ici qui pensent que c'est la faute des Français ou des Allemands ou des Britanniques, non. Et l'Union européenne reste, je dirais, suffisamment populaire. La monnaie unique, l'euro, reste très populaire avec les citoyens.
Et on n'a pas parlé encore de la situation en Russie, mais ce qui se passe en Russie, en Ukraine, c'est quelque chose qui va mettre Finlande vraiment décisif à rester au sein de l'Union européenne. À côté de l'Ouest, on ne va pas sortir de aucune coalition occidentale en ce moment.
Dans ce sens, on n'a aucune identité, crise d'identité. Voilà. Nous savons ce que nous sommes. Nous sommes les membres de l'Union européenne, nous resterons ça.
Et les Finlandais sont tous d'accord sur...
Pas tous, mais je dirais une grande majorité.
Ce serait un débat intéressant à lancer. Est-ce que la Finlande va rejoindre l'OTAN un jour ou l'autre? Là, c'est encore un grand débat, mais on n'a pas le temps. Hein. On fera une autre émission pour savoir si la Finlande rejoindra un jour ou non l'OTAN, parce qu'il faut largement plus d'une émission pour traiter ce sujet. Alors, on va laisser de côté, pour un temps, au moins, les interrogations des Finlandais, qui ne sont pas finalement si interrogatifs que ça à propos de la Finlande et de l'avenir de la Finlande dans l'Europe. Et je vais vous emmener faire une petite balade à Helsinki. Helsinki, c'est la capitale de la Finlande, environ 600 000 habitants, capitale d'un pays peuplé d'un peu plus de 5 millions d'habitants. Et pour découvrir le cœur d'Helsinki, eh bien, Laura Sauvageau, qui est autour de cette table, m'a donné rendez-vous hier sur le port d'Helsinki, qui est aussi la place du marché.
C'est à Kauppatori, justement ici à la place de marché, que l'histoire d'Helsinki commence. Aux alentours, il y a énormément de choses qui symbolisent la ville, tout comme la statue Fontaine Haavis Amanda, qu'on voit au bout de l'esplanade, qui est tout près de cette place du marché, qui en fait symbolise une sirène qui sort de la mer et ainsi la naissance d'Helsinki.
Il y a évidemment le port, c'est le début d'Helsinki, puis après tous les symboles du pouvoir et politique et religieux.
Ben, je parlais de Haavis Amanda, et ce qui est drôle avec elle, c'est que c'est un architecte, Ville Valgren, qui l'a construite à Paris. Et comme vous pouvez le voir, elle montre son derrière à la place du marché et ainsi en fait à l'hôtel de ville et au palais présidentiel et à l'église orthodoxe qu'il était à l'époque orthodoxe russe, la cathédrale Ouspensky au bout de la place du marché.
Et puis juste derrière, on la voit pas, je serais presque tenté de dire parce que le ciel est couvert, mais il y a l'énorme, l'immense cathédrale luthérienne qui, elle, symbolise un autre colonisateur.
Oui, c'est vrai, la Suède qui a régné sur la Finlande pendant plus de 600 ans.
On était tout à l'heure sur la place qui s'appelle
Kauppatori.
Et maintenant, on a fait quelques pas, on est dans un marché qui s'appelle
Kauppahalli.
On est près du port, donc il y a évidemment beaucoup de poissons sous toutes les formes, évidemment beaucoup de saumon, mais pas seulement.
Oui, du hareng, de longues chevaliers, c'est comme ça que ça s'appelle, oui, arven, et puis aussi beaucoup de viande et des fruits.
Alors la viande, c'est du renne?
Du renne, mais aussi on a aussi des vaches, des moutons, oui.
Et puis cette spécialité qu'ont les Finlandais, les baies, c'est-à-dire, par exemple?
Les baies des marais, qui se trouvent surtout en Laponie, et ensuite... On a aussi des canneberges, des fraises, énormément de fraises en Finlande.
Énormément de fraises en Finlande, et ça, je suis sûr que vous le découvrez comme moi je l'ai découvert hier. On ne s'attend pas, effectivement, je m'adresse à l'économiste, à Sixten Korkman, à ce que la Finlande produise des fraises. Et pourtant...
Oui, l'été, c'est différent.
Alors ça suffira pas forcément à sortir de la Finlande de la récession ou de la stagnation, on est d'accord. Mais c'est encore, en tout cas, inattendu. Et c'est pas le moindre paradoxe de ce pays. On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Le temps des infos, avant de nous retrouver à Helsinki. À tout de suite.
Carrefour de l'Europe, sur RFI.
Europeiski.
Euroopan kohtaamispaikka.
Κουζίνιον του Ευρώπη.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles.
Rebonjour, bonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Nous sommes toujours en Finlande, à Helsinki, où nous avons posé nos micros à l'Institut français. Je vous représente rapidement nos invités qui ont bien voulu prendre place autour de ces micros. Sixten Korkman, professeur d'économie à l'université Ada Aalto d'Helsinki. Elli Suominen, ex-journaliste et aujourd'hui conseillère en communication. Timo Torikka, acteur. Catherine Métivier, professeur de français. Laura Sauvageau, chargée de communication. Walter De Waalde, artiste plasticien. Et on entendra tout à l'heure Aino Avena, une chanteuse finlandaise de plus en plus connue dans son pays et probablement à l'international. Alors, dans la petite balade tout à l'heure avec Laura Sauvageau, on a évoqué les deux grands voisins de la Finlande, la Russie et la Suède, qui ont occupé, on peut dire colonisé ou pas, Elli Suominen?
Je dirais pas colonisation, mais on a été partie de la Russie.
Et de la Suède.
Et de la Suède, également.
Sixten Korkman.
Il y a une différence à faire quand même. Nous faisions partie de la nation de la Suède pendant 7 siècles. Et nous n'étions pas occupés par, nous faisions partie, nous avons le même droit que les Suédois. Et avec la Russie, nous étions autonome, c'est-à-dire que nous avons maintenu notre législation, etc. Et la liberté, nous ne faisions pas partie de la Russie.
D'ailleurs, vous n'avez pas été russifié.
Non. Nous avons eu une autonomie interne avec des monnaies finlandaises, des législations, des écoles, tout ça.
Et religion luthérienne, alors qu'évidemment les Russes sont orthodoxes. Qu'est-ce qui reste de l'influence de ces deux pays dans le cœur ou dans l'esprit des Finlandais? Qui veut rebondir, Sixten Korkman?
Il reste très peu de l'époque de la Russie. Mais il reste encore beaucoup de la période suédoise, parce que notre système de législation, par exemple, notre bureaucratie, il y a beaucoup de traits qui ont une origine de siècles déjà, et ça vient de la période pendant laquelle faisions partie de la Suède. C'est très important pour l'histoire de la Finlande que nous faisions partie de la Suède, parce que nous sommes un pays nordique, avec les mêmes valeurs, avec les mêmes institutions, etc. C'est très important que nous n'étions jamais russifiés.
Tout à fait d'accord avec Sixten, mais en même temps, il y a un côté slavique dans l'esprit finlandais. En Suède, c'est plutôt un pays de bière, et la Russie, c'est un pays de vodka. La Finlande, c'est un peu les deux, mais plus vodka.
Nous sommes plus en plus un pays de vin. Nous sommes européens.
Voilà, champagne. Hein.
Et depuis 95, avec l'adhésion à l'Union européenne, le vin progresse chaque jour un peu plus en Finlande. Timo Torikka, vous vouliez ajouter quelque chose sur l'influence entre de la Russie et celle de la Suède?
Le côté russe, c'est pas tellement visible. On a toujours quand même essayé de distinguer, avoir une sorte de distinction avec la Russie, parce que c'est un peu comme les Irlandais et Angleterre. C'est un peu pareil quand même. On a tenu notre côté finlandais, notre identité qui est quand même liée au fait que la Russie existe juste à côté.
Vous connaissez le proverbe, on n'est pas suédois, on ne veut pas être russe, donc on est finlandais.
Ah, j'allais vous poser la question, vous avez répondu. Qu'est-ce qui fait finalement que les Finlandais ne sont pas devenus suédois?
La Finlande est un pays beaucoup plus rural en tradition que la Suède. Les Suédois, ça fait beaucoup plus longtemps qu'ils ont vécu dans les chambres avec des vrais meubles. Et la Finlande est un pays urbain depuis beaucoup moins longtemps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit encore dans la culture.
Quel est le rapport qu'aujourd'hui les Finlandais entretiennent avec les Russes? Par définition, ils se méfient des Russes, Sixten Korkman?
Certainement, mais il faut dire que nous n'avons pas de problème avec les Russes. Nous avons beaucoup de touristes de la Russie ici. Nous n'avons pas de mauvais sentiments, comme aux Estonies, aux Pologne. Là, il y a des gens qui ont beaucoup de mauvais sentiments. Pas chez nous, parce que nous n'étions jamais occupés et nous avons défendu, heureusement, notre pays. C'est-à-dire qu'on n'avait pas une invasion pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça donnait quand même une attitude qui bonne, je trouve.
Quand même ajouter qu'il y a quand même une population russe assez importante à Helsinki, parce qu'en fait, avant, c'était suédois était le deuxième langue à Helsinki, et maintenant, c'est russe. Ça, oui, ça veut dire qu'il y a, il y en a beaucoup. Et on entend vraiment à Helsinki assez souvent des gens qui habitent à Helsinki, qui sont finlandais, mais qui parlent russe, qui ont quand même l'origine russe.
C'est la première ou deuxième minorité en Finlande, les Russes et les Estoniens. Et comme Sixten a dit, il y a une grosse différence on n'a aucun problème avec les Russes, mais on a des problèmes et des soucis vis-à-vis de la politique de l'État russe. C'est deux choses tout à fait différentes.
Catherine Métivier, votre regard, vous aussi, de binational sur la Russie.
Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je dirais que vis-à-vis de la Russie, les Finlandais, en général, sont assez méfiants. Voilà. Il y a une confiance totale avec les Suédois. C'est plus un rapport de grand frère,
de frère.
Il parle même de frère, de grand frère, avec cette idée qu'entre frères et sœurs, on se chamaille, mais en même temps, on s'aime bien. Donc, il y a ce rapport-là. Alors qu'il n'y a pas ce rapport-là avec la Russie, hein, il y a quand même l'histoire qui pèse, et qui est
deux guerres.
Donc, c'est un traumatisme pour eux, qu'on le veuille ou non. Et il faut se souvenir que la Finlande est un pays jeune. Très jeune. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une société en pleine mutation qui est en train de mûrir, mais qui a encore besoin de temps pour s'affirmer. Alors, et elle recherche tout le temps cette...
On ne le sait pas forcément, et vous venez de le dire, la Finlande est un pays, en tout cas un État très jeune. En 2017, dans deux ans, la Finlande fêtera ses 100 ans. C'est un très jeune pays, la Finlande, Sixten Korkman.
C'est absolument vrai.
Un pays jeune, mais une nation très vieille.
Très ancienne, très vieille, je dirais une nation avec une identité assez forte quand même. Mais c'est vrai que comme nation, nous sommes jeunes.
On a parlé tout à l'heure dans la première partie du CISU, qui est une partie de l'identité, mais ce qui forme l'identité de la Finlande et des Finlandais, c'est la langue, c'est le finnois.
Comme Timo le dit, le CISU est un peu un mythe, c'est exagéré. Mais bien sûr que la relation avec les Russes, par exemple, la question que nous sommes entre la ouest et la est, ça c'est une dimension. Et deuxième, est que la nature est toujours très proche ici. Et je dirais un troisième, mais que nous sommes un peu minimalistes. On n'est pas tellement bavards comme vous êtes tous en Europe. Et un problème que nous avons, que j'ai pu constater à Bruxelles, j'étais là quand même pendant une décennie, est que nous ne montrons pas notre sentiment, nous ne faisons pas des gestes, par exemple. Et c'est difficile pour des étrangers de nous comprendre. J'avais une secrétaire qui est allée voir un film par Aki Kaurismäki, Kauas Pilaret Karpkavat, et quand elle est revenue, elle m'a dit, maintenant je vous comprends, monsieur Korkman. Parce que là, dans les films, il s'assoit dans une table et il ne dit rien pendant 30 minutes.
Oui.
Et ça, c'est, en Finlande, on peut se faire. En France, je crois que c'est un peu difficile.
Oui, c'est relativement difficile. On va venir un petit peu justement sur ce côté, on va dire, réservé des Finlandais. Peut-être un mot sur la langue qui a quand même unifié, qui a peut-être permis aux Finlandais de s'affirmer par rapport aux Suédois et par rapport aux Russes. Qui peut rebondir, Elisa Wimnen?
La langue finlandaise, c'est très important. C'est notre culture, notre nation est née avec le mouvement finnophone qui a créé la langue écrite du finnois, donc c'est organiquement lié avec l'idée de notre nation.
Sixten Korkman a un peu dévoilé la deuxième partie de l'émission, le côté très réservé des Finlandais. Il y a un moment, paraît-il, où les Finlandais sont un peu moins réservés, c'est lorsqu'ils sont entre eux, chez eux, au sauna, peut-être parce qu'on est nu et que quelque part on se dévoile ainsi. En tout cas, le sauna, c'est une partie importante de la vie des Finlandais. Et j'ai eu la chance que Sini Sovijärvi m'invite à partager son sauna chez elle. J'ai l'impression qu'on est là dans la pièce principale d'une maison finlandaise.
Oui, c'est le sauna, le sauna finlandais. C'est vraiment le cœur de la maison. C'est une grande tradition qui nous est super importante.
Alors vous, quand vous êtes dans votre sauna, ça se passe comment?
Normalement, on se douche avant. Il faut être quand même mouillé quand on y entre. Et après, on reste ici dans la pièce principale sur les bancs. Comme ça, d'habitude, on met un linge où on mouille quand même avec de l'eau les bancs. On jette de l'eau sur les pierres de la cheminée du sauna. Je ne sais pas si on l'appelle comme ça. Nous l'appelons kiuas. C'est un joli mot, très, très vieux. Et comme ça, on laisse monter la chaleur doucement. Moi, j'aime bien rester quand même 5 minutes, puis je sors, je me douche, ou bien je sors carrément dans mon jardin.
Quand vous êtes dans votre sauna, vous pensez à quoi?
Oh, je pense aux choses qui me sont importantes, c'est-à-dire si jamais, par exemple, j'ai des problèmes personnels, je réfléchis à ça, mais ce n'est pas négatif, parce que je trouve que le sauna, c'est toujours une source psychologique ou philosophique qui est très très bénéfique. C'est un endroit très très créatif. On trouve beaucoup de solutions, beaucoup d'idées. On dit que les artistes ou les journalistes trouvent beaucoup de nouvelles idées dans le sauna.
Timo Torica, vous qui êtes un artiste, je poserai la même question à Walter Deval. Est-ce que le sauna vous inspire? Qu'est-ce que ça représente pour vous, le sauna?
Pour moi, c'est surtout la tradition. Parce que ça existe depuis que la nation finlandaise est née. Ça veut dire que c'est vraiment une tradition qu'on peut sentir. Même si on connaît pas l'histoire de sauna, mais on sent cette histoire. Et moi, je me souviens quand mon père voulait me parler de quelque chose d'important, c'était toujours dans le sauna.
Sistine Korkman, vous nous expliquez tout à l'heure que ce côté très réservé des Finlandais, est-ce que le sauna libère la parole des Finlandais? Parce qu'on peut prendre un sauna tout seul, mais on peut le prendre entre amis, en famille, voilà. Est-ce que le sauna aide à la libération de la parole?
C'est possible. Et bien sûr que auparavant, pas aujourd'hui, mais auparavant, on a beaucoup utilisé le sauna pour des discussions difficiles, par exemple des discussions politiques. Peut-être que ça aide un peu quand vous êtes nus tous les deux ou tous les trois. On n'a pas le même prestige. Et c'est peut-être plus facile de trouver une nouvelle attitude, etc. Mais je dirais que c'est pas tellement important aujourd'hui, je crois. Mais c'est une tradition qui, moi aussi, j'ai appris.
Alors, il paraît, oui, puisque vous l'évoquez, Sixten Korkman, qu'il y a eu une diplomatie du sauna, notamment à l'époque du Roque Konen, donc oui. Dans cette partie où la Finlande n'appartenait pas à l'Union Européenne, et où le Premier ministre finlandais, Roque Konen, qui est resté au pouvoir très longtemps, 20 ans à peu près, recevait volontiers ses hôtes soviétiques à l'époque, oui. Dans le sauna. On aurait eu envie d'être une petite souris pour savoir ce qui pouvait se dire à l'époque. Qu'est-ce qui pouvait se dire? Est-ce que l'indépendance de la Finlande, l'autonomie de la Finlande s'est jouée peut-être dans un sauna? C'est possible?
C'est possible, parce qu'il faut dire que la vie de la Finlande, avec un voisin tellement grand comme l'Union soviétique, et maintenant la Russie, c'est pas toujours facile. Et surtout pendant les guerres froides, the Cold War, je crois que Kekkonen a joué bien, et peut-être que le sauna était important.
Alors, Sinis Ivarni, qui m'a accueilli, elle est journaliste à la radio publique Oula, elle a insisté pour dire qu'évidemment il y a le corps et il y a aussi l'esprit et les Suominen.
Oui, c'est curieux parce que je pense d'abord à méditation quand je pense au sauna. Après ça, c'est le corps. Donc pour moi, c'est d'abord l'esprit. Si on est seul, c'est méditatif. Si on est avec un copain ou avec la famille, c'est intime. Et après, c'est le côté physique. Surtout en été, le sauna très chaud. Et après, se baigner dans un lac où l'eau se sent comme de la soie.
Dans un lac, par définition, très froid, même en été.
Oui, mais ça fait du bien. Il faut essayer ça.
Laure Sabajouz, les jeunes gardent un plaisir à aller au sauna ou c'est un truc de vieux?
Non. Je pense que les jeunes aussi aiment beaucoup le sauna. Le sauna est là en plus en fait à toutes les époques de l'année. Il nous réchauffe en hiver, il nous fait du bien en été et surtout Heli a parlé donc du lac froid et qui donne une sensation de soie sur le corps, mais aussi pendant l'été on a les bouleaux qui fleurissent et on apporte justement ces branches de bouleaux dans le sauna pour ça paraît très barbare aux yeux des inconnus, mais pour se donner quelques petits coups et pour faire circuler le sang.
Pour autant, vous ne battez pas votre coulpe, néanmoins. Ça ne va pas jusque-là. Tout le monde a un sauna dans sa maison, autour de la table, Sixten Korkman?
Un sauna à la maison et un autre dans la maison d'été.
La maison d'été.
Chacun a la maison d'été,
nous
presque.
Nous y voici. Trois mots pour bien comprendre la Finlande. Le premier, c'était évidemment sisu. Le deuxième, c'était sauna. Et le troisième, mökki. Qu'est-ce que c'est qu'un mökki, Sixten Korkman?
C'est une petite maison qui est à côté d'un lac ou dans la côte de mer. Il y a un cottage, une petite maison, plus le sauna. Et là, on aime parce qu'on est proche de la nature et c'est un peu primitif.
Elis Suominen, votre expérience du mökki. Alors, ça s'écrit M-O-T-R-E-M-A, 2-K-I, pour ceux qui auraient envie de chercher sur un moteur de recherche quelconque.
C'est le moyen de profiter de l'été 110%. Quand on va au mökki, on est près de la nature et on est loin de la ville et on peut vraiment regarder la nature, voir, entendre les petits oiseaux, sentir le parfum d'été. Donc, c'est pour profiter de l'été l'été très court, 110%.
Oui, alors, on est au mois de juin, et l'été, c'est pas tous les jours en ce moment encore. On est à quoi, une quinzaine de jours de la Saint-Jean, qui est un moment important dans la vie des Finlandais. Hein. Oui. C'est le solstice d'été, c'est le moment où le jour est le plus long, c'est-à-dire pratiquement 24 heures sur 24. Et ça compense le solstice d'hiver, où il fait nuit pratiquement 24 heures sur 24. Le solstice d'été, la Saint-Jean, c'est vraiment un moment important, où on profite chacun de son meuki. On m'a dit, c'est le dernier moment pour faire une émission en Finlande. Si vous venez dans 8 jours, dans 10 jours, il n'y aura plus personne autour de la table. Tout le monde sera parti dans son meuki. C'est bien vrai, Catherine Métivier?
Tout à fait. Et les trois éléments que vous avez mentionnés, le sauna, le meuki et
le sissou.
Peut-être pas le sissou, mais le meuki et le sauna, je considère ça comme des rituels. Ce sont des rituels familiaux, ce sont des rituels sociaux. Comme nous, en France, on a les repas. On se retrouve autour d'une table deux fois par jour, au moins une fois par jour en semaine, le soir. Ici, on va se retrouver en famille au sauna et on va mettre toutes les affaires dans le coffre le vendredi pour aller passer le week-end en famille au meuki.
Laura Sauvageois, ça c'est transgénérationnel, les parents comme les enfants?
Je pense qu'en ce moment aussi, on va souvent au meuki entre amis pour oublier une semaine difficile de travail. Et ça se fait aussi beaucoup dans les milieux sportifs. Il y a beaucoup de sportifs en Finlande. Le sport est aussi va dans l'esprit national. Donc
souvent des sports d'endurance d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Les Finlandais étaient très bons marathoniens par exemple.
Ouais. Oui, c'est vrai, à l'époque de Paavo Nurmi.
Là, on retrouve la notion de persévérance et de sissou peut-être. Hein, peut-être,
oui,
je sais pas.
Oui, c'est vrai. Et le hockey sur glace.
Qu'est-ce qui fait le bonheur d'un Finlandais, Elise Suominen?
Je trouve que c'est la même chose partout dans le monde, la famille et les amis. Et après, mais qui est sauna?
Voilà.
Le repas aussi.
À le repas. Alors, pendant très longtemps, on était persuadé qu'on mangeait très très mal en Finlande. Tout ça, c'est en train de changer. Il y a une gastronomie finlandaise qui est en train de naître à partir de produits originaux. Comment s'est réinventée la cuisine finlandaise au point de devenir une cuisine gastronomique, Elise Suominen?
Je trouve que c'est la jeune génération des jeunes chefs qui ont voyagé et qui ont eu l'idée qu'ils peuvent être aussi fort un chef gastronomique que les Français ou les Danois qui ont été les premières au pays nordique à faire des étoiles Michelin. Donc je trouve que c'est vraiment qu'ils ont commencé à croire qu'ils sont capables.
Et ce qui fait la caractéristique de la gastronomie finlandaise, c'est
Il y a beaucoup de seigle. Déjà dans le pain, dans les pirogues caréliennes, il y a du seigle. Ensuite, on utilise des herbes comme l'aneth. L'aneth, je trouve que c'est tilli. C'est une herbe qu'on
beaucoup
retrouve.
Beaucoup d'herbes, hein. Beaucoup,
ouais. Pas énormément, justement. Il y a, on utilise le tilli, l'aneth. et puis, en Finlande, on a, justement, on parlait des 100 000 lacs. Il en a même beaucoup plus. Et il y a aussi une grande côte. Donc, beaucoup de poissons. Et on utilise aussi beaucoup de bière dans la cuisson des choses.
Et parfois un peu de vodka. Un mot encore sur ce côté, ce goût, cet amour des Finlandais pour la nature. Est-ce que les livres d'Arto Paasilinen, Le lièvre de Bandanen, c'est un livre que tous les Finlandais aiment et se retrouvent dans ce livre ou pas? C'est l'histoire d'un journaliste justement qui à un moment percute un lièvre. Il part à la poursuite de ce lièvre jusqu'au nord finlandais, à la découverte de lui-même et de la nature, à travers la nature. C'est très finlandais, ce livre?
Oui, c'est un joli bouquin, mais je trouve que c'est même encore plus aimé par les Français que les Finlandais. C'est le livre que tous les Français connaissent, et je crois que c'est peut-être lié au fait qu'il a eu un traducteur ou une traductrice qui a été vraiment très fort et qui a découvert le livre. Mais c'est même plus populaire en France qu'en Finlande.
Mais est-ce que c'est un livre dans lequel les Finlandais se retrouvent?
Oui, mais c'est pas le premier livre. Ouais.
Alors, on arrive au terme de cette émission. Un livre à conseiller aux Français qui viendront en Finlande, Elise Suominen, qui ne soit pas Le lièvre de Vatanen.
Principalement, je pense au roman que j'ai dernièrement lu. Il y a un côté littéraire jeune en Finlande qui est très fort, Sophie Oksanen, Elina Hirvonen, mais c'est pas encore des grands classiques, mais peut-être à l'avenir.
Purge, par exemple.
Sophie Oksanen a écrit beaucoup du passé de Finlande et Estonie. Voilà, Purge.
Une bonne idée, un bon conseil, une bonne raison de venir en Finlande pour tous les auditeurs qui ne connaissent pas. Allez, en quelques secondes, chacun à votre tour. Elise Suominen, bon, vous avez déjà donné un livre à lire. Timo Torikka, une bonne raison de venir en Finlande?
La nature. C'est la première.
Catherine Métivier.
Ouais, c'est pareil. Et
venir... À un moment, il va falloir changer quand
non,
même.
Non.
Tout le monde va pas pouvoir venir à la nature autour de la table.
Et venir en été, non en hiver. C'est la plus belle saison dans ce pays.
L'été. Pourquoi ne pas venir en hiver, Walter Deval?
Je voudrais dire que aussi, la Laponie en hiver, ça, c'est très joli.
La Laponie tout en haut, à la poursuite du Père Noël, c'est ça. Voilà. Ou à la découverte du Père Noël. Qui habite, rappelez-moi où habite le Père Noël, j'ai oublié.
Korvatunturi.
Laura Sauvage, une bonne raison de venir en Finlande.
Ça, je vais me répéter, mais enfin, je vais vous répéter. La nature, elle est, et l'archipel, les lacs, c'est ce qui fait l'exotisme de la Finlande.
Oui,
l'archipel est un secret bien gardé, qu'il est extraordinaire dans les lacs, comme à la côté. La silence, par exemple. Moi, j'habitais le Paris il y a une décennie maintenant, mais j'ai trouvé un peu difficile parce qu'il y a toujours tellement du monde et du bruit. Et en Finlande, vous trouvez un peu moindre et aussi le silence dans la nature, bien sûr.
Il paraît que les Finlandais s'entendent très très bien lorsqu'ils se rencontrent avec les hommes du désert, à cause du silence qu'ils ont en commun, c'est vrai?
Peut-être.
Elise Ominen.
Je dirais encore Helsinki, la ville, la capitale de Finlande, c'est devenu très sympa comme ville. Les petits restaurants, les petits cafés, le côté mode, les jeunes designers.
L'architecture.
Et en même temps, vous avez la nature très proche, mais c'est une jolie ville.
C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé d'Helsinki, qui est une bonne raison de venir en Finlande.
Et il faut visiter Suomenlinna, la fortesse qui est à côté de l'Helsinki, qui est très grand, impressionnant, des 18e, financée par les Français.
Et construite par les Suédois. Pour arrêter les Russes,
oui.
Ça n'a pas marché.
Ça ne marche pas.
C'est la ligne Maginot
Parlons pas de ça.
Ça a marché un petit peu.
La ligne Maginot des Suédois, la forteresse de Suominen.
Et aussi encore pendant l'été, si vous venez en Finlande, chaque week-end, il y a un grand festival de musique. C'est la Finlande est le pays pour les festivals et je vous les conseille.
On va se quitter avec Aino Vena. Vous êtes bonjour.
Bonjour.
Hey. Vous êtes déjà très connu en Finlande. On vous connaît pas encore beaucoup en France, hein? Pas encore.
Pas encore.
Pas encore. Donc c'est peut-être le début.
Peut-être.
Vous chantez en anglais parfois en français.
Oui, c'est vrai.
Mais surtout en anglais.
Surtout, oui.
Parce que pour être avoir une carrière internationale, faut chanter en anglais, c'est nécessaire en Finlande?
Non. C'est je crois que c'est en finnois, c'est un peu difficile chanter en anglais.
Alors cela dit, vous allez nous chanter une chanson en finnois,
oui.
Mais c'est pas une chanson finlandaise.
C'est une chanson qui est très célèbre. C'est une chanson de George Gershwin. Summertime.
En français, on dirait nuit d'été.
En finnois, kesäyö. Et en français, une nuit d'été, oui.
Encore une fois en finnois.
Kesäyö.
On vous écoute.
Merci.
Kesäyö. Tuoksu tuhlaten antaa ruusun lehtien kastelmia luo. Varjo utuinen öisen linnun pois kantaa. Jon vaieten tuli laulun tuo. On aamun aikaa, käy tanssi varjojen hiljaa. Kunnes heräämään aamu kukkaset saa. Sen toiveet heijastaa. taakse varjojen hiljaa, kunnes heräämään aamukukkaset saa. On vielä aikaa lammen kuultavaan pintaan. Yön kesäisen toiveet
Merci, merci à tous d'avoir été au Carrefour de l'Europe ici à Helsinki. Un merci tout particulier aux équipes de l'Institut français d'Helsinki et à Marco Ruonala de l'ambassade de Finlande à Paris. Réalisation Jérémy Besset sur la page de l'émission via le site rfi.fr. Plein de choses vous attendent. Vous pouvez réécouter ce Carrefour de l'Europe et d'ailleurs tous les autres via Internet et les applications mobiles de RFI. Sans oublier lier bien sûr les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour rester en contact. Daniel Esquel, où que vous soyez à Helsinki, ailleurs en Finlande, en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.